Bonjour et bienvenue sur YogiBiz Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogipreneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast. Aujourd'hui, je vais partager mon micro avec Anne-Lise, gérante avec son associée Céline de deux studios Bliss Yoga Home à Aix-en-Provence et dernièrement Marseille. C'est donc tout naturellement que notre sujet du jour portera sur la collaboration avec les studios. Quelles sont les bonnes raisons d'enseigner en studio aujourd'hui et ce que ça peut t'apporter? Comment démarcher les studios même si tu es une jeune prof avec peu d'expérience? Les erreurs à éviter quand on démarche un studio? Comment te mettre en avant à l'inverse quand tu veux postuler? Mais aussi comment te faire remarquer et attirer les studios à toi? Enfin, pourquoi enchaîner une multitude de cours par semaine en studio n'est pas une bonne idée, surtout si tu démarres, et comment savoir justement dans quelle collaboration s'investir. Vous découvrirez tout ce qu'il y a à savoir quand on veut enseigner en studio, que vous soyez jeune prof sans savoir comment vous lancer, que vous souhaitiez un business model mix entre enseignement en studio et en ligne, ou même encore, cet épisode ouvre la discussion et invite au partage d'expériences entre propriétaires de studios de yoga. Avant de rejoindre mon invité, nous parlerons dans l'épisode forcément des bonnes pratiques pour se présenter. Si vous avez besoin de prendre confiance en vous et de savoir comment vous mettre en valeur même avec peu d'expérience, vous retrouverez mes meilleurs conseils pour vous préparer à cet exercice dans la masterclass Boost ta visibilité qui est disponible sur mon site. Cette masterclass, c'est en fait une mini-formation qui regroupe les 3 summer classes que j'ai données cet été, et dedans vous trouverez mes meilleurs conseils pour apprendre à parler de vous et à vous mettre en valeur avec authenticité. Vous pouvez la télécharger directement sur mon site, elle est disponible en haut de chaque page sur mon site yogibizcoaching.com, donc vous pouvez pas la manquer, vous la retrouverez très facilement. Trêve de bavardage, je laisse tout de suite place à ma conversation avec Anne-Lise. Bonne écoute. Hello Anne-Lise, bienvenue, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur YogiBiz Podcast.
Bonjour Cécile, je suis ravie d'être ici aussi.
Eh bien écoute, je te remercie en tout cas pour ton initiative de m'avoir proposé ce sujet de comment collaborer avec un studio de yoga. Et d'abord, je vais te laisser peut-être te présenter et nous présenter ton studio.
Oui, bah je suis Anne-Lise et il y a 3 ans, j'ai créé avec mon associée Céline les studios Bliss Yoga Home. Donc le studio pour commencer à Aix-en-Provence. Ça a été une aventure, on était profs indépendantes chacune de notre côté. Et l'idée de ce studio, c'était vraiment nous en fait donner des cours dans un environnement qui nous convienne. De pouvoir s'organiser un petit peu comme on voulait toutes les deux. Et puis, petit à petit, le studio a commencé à accueillir un peu plus de profs. Et puis, cette année, on a pu ouvrir notre 2e studio. C'était notre but depuis le départ, mais malheureusement, cause Covid, on a un petit peu retardé le projet. Et donc, on a pu ouvrir un 2e studio proche de Marseille. Et là aussi, on a une équipe qui commence à grandir un petit peu, d'où le fait de t'avoir contacté pour ça, pour aider les profs de yoga qui auraient envie de travailler en studio, mais ne sauraient pas peut-être comment s'y prendre ou qui aborder, comment, etc.
Ah bah c'est parfait, voilà, donc tu nous as présenté l'ordre du jour qu'on va traiter aujourd'hui, par où commencer, comment s'y prendre, les erreurs à ne pas faire, les choses à faire au contraire, les différentes étapes, etc., etc. Ça va être passionnant. Alors, si on démarre par le commencement, est-ce que tu peux, selon toi, nous donner les bonnes raisons justement aujourd'hui d'enseigner en studio? Parce que évidemment, beaucoup de profs de yoga qui nous écoutent sont aussi intéressés maintenant par le online, mais l'un peut très bien aller avec l'autre. Alors, est-ce que toi, tu peux nous donner justement les bonnes raisons d'enseigner en studio aujourd'hui?
Alors moi, je suis convaincue comme toi que vraiment le fait d'enseigner en ligne, c'est super. Mais c'est génial aussi de diversifier un petit peu son activité en tant que prof de yoga et d'avoir, pourquoi pas, des cours en studio, des cours en présentiel, d'organiser des retraites. C'est un métier qui permet une grande liberté dans son organisation. Et pour moi, je prêche pour ma paroisse, les cours en présentiel sont super importants pour avoir le retour des élèves et aussi se nourrir de leur énergie, en fait. Donc, qu'est-ce que je donnerais comme raison pour un prof d'enseigner en studio? Je crois que la première, ce serait un aspect très pratique qui serait le fait d'avoir un revenu régulier. Quand on enseigne en ligne, qu'on organise des retraites, etc., ça peut être très aléatoire. En studio, si on donne un cours toutes les semaines, ça nous fait quand même un petit revenu complémentaire qui tombe tous les mois et ça peut être déjà un début pour pouvoir vraiment créer une activité autour de ça et commencer à se sentir un peu plus en sécurité financière et en sécurité tout simplement. Ensuite, à savoir que le travail en studio, ça demande quand même beaucoup moins d'investissement que, par exemple, de lancer son propre cours en louant une salle, par exemple. Mais déjà, il n'y a pas l'investissement financier. Il n'y a pas le fait d'aller chercher les élèves. Si vous voulez enseigner en studio, il y a quand même normalement une base d'élèves qui est déjà établie et qui, si elle aime bien votre cours, va pouvoir venir. Donc, il y aura quand même beaucoup moins de choses à organiser, beaucoup moins de marketing à mettre en avant, beaucoup moins d'investissement financier aussi.
Très bonne autre raison, effectivement, si on veut se libérer ou s'affranchir un petit peu de toutes ces casquettes.
Oui, et je rebondis sur cet aspect-là, le fait qu'il y ait une base d'élèves qui soit présente. Et c'est vrai que dans un studio, ça tourne, c'est pas sans arrêt les mêmes élèves qui vont venir à votre cours, c'est pas comme dans un cours qu'on va réaliser à l'année, en fait, dans un studio. On a une base d'élèves qui peuvent naviguer entre les différents cours du studio. Donc, le fait d'avoir accès à cette base d'élèves-là, ça permet de toucher constamment des nouvelles personnes et de pouvoir vraiment se faire connaître d'une autre façon que la présence en ligne. Donc, ça peut être intéressant aussi. Et puis d'autant plus voilà, que le côté présentiel, ça apporte beaucoup aussi à la fois, comme je disais, dans le retour des élèves après notre séance, mais à la fois, c'est vrai, quand on donne un cours en ligne, on peut se sentir un peu épuisé à la fin de la séance, sans trop savoir si ça a plu ou pas. En présentiel, on peut vraiment se nourrir de l'énergie des élèves quand on les voit à la fin en Shavasana. C'est vraiment trop beau, c'est extraordinaire, j'adore.
De tous les profs de yoga.
Voilà, puis en dernier point, vraiment pour les raisons d'enseigner en studio, et je crois que ce sera presque le plus important, c'est que j'ai beaucoup de profs dans mon entourage, que ce soit en ville ou à la campagne d'ailleurs, qui se sentent énormément isolés. Et le fait de faire partie d'une équipe, alors si possible, si vous avez bien choisi le studio, une équipe soudée avec des collègues super sympas, c'est vraiment un plus, ça permet vraiment de se soutenir, de sentir que bah, dans ce métier qui est pas évident, hein. On a des personnes à nos côtés qui vivent la même chose que nous et ça, c'est vraiment super important.
Oui, c'est vrai que quand on développe une activité en ligne, c'est important de chercher, entre guillemets, des business friends ou des accountability partners, comme on appelle ça, parce que sinon, on peut vite, oui, effectivement, être toujours seul si on n'a pas forcément une vie sociale riche autour ou autre. Après, c'est peut-être pas ce qu'on recherche, mais c'est vrai qu'on peut se sentir peut-être un petit peu isolé. Et pour rebondir sur le point où tu disais aussi, donc enseignant en studio, ça permet de se faire connaître dans le cas où on ne veuille pas enseigner qu'en studio, mais justement qu'on veuille avoir la casquette studio et la casquette, malgré tout, créer des cours en ligne pour soi aussi à côté ou organiser des retraites ou autre. Je pense que l'avantage, justement, c'est aussi de pouvoir promouvoir, entre guillemets, nos événements, enfin de se faire connaître et du coup d'attirer aussi plus de monde et de pouvoir promouvoir nos autres événements auprès de ces élèves en complémentarité. Donc, du coup, ça peut permettre d'étendre aussi, enfin, voilà, justement, comme tu disais, finalement, se faire connaître, mais aussi, du coup, se faire connaître pour ce qu'on peut faire d'autre en dehors du studio et pas que le cours qu'on donne à ce moment-là.
Alors là, tu touches à un sujet un petit peu touchy parce que nous, effectivement, dans nos studios, on va promouvoir les retraites de nos profs et promouvoir leurs événements. On préfère quand même que les événements aient lieu chez nous.
Oui.
Voilà. Après, il y a quand même ce petit truc-là de dire que la base d'élèves, même si on y a accès, au final, ce sont les élèves du studio. Et autant nous, on est super contentes quand nos élèves vont dans les retraites de nos profs, etc. Autant quand les profs organisent des ateliers ailleurs, on n'a pas vocation, bien entendu, en tant que studio, à les promouvoir. Mais effectivement, elles peuvent très bien en parler. Voilà. Mais après, ça dépend vraiment des studios. Et c'est quelque chose qui peut être discuté. Et justement, on en parlait tout à l'heure, il ne faut pas oublier que en tant que prof de yoga, vous êtes indépendante pour peut-être la plupart des personnes qui nous écoutent. Et à ce titre-là, on a vraiment un partenariat. Donc, il faut que les choses soient vraiment établies, pourquoi pas écrites. On peut avoir un contrat de collaboration qui est écrit, nous on en propose à nos profs et dans ce cas-là vraiment tout est détaillé. Par exemple, nos profs n'ont pas accès aux adresses mail des élèves parce que c'est une base de données qui appartient au studio. Mais si les élèves ont envie de les contacter sur les réseaux sociaux ou de les contacter, on sera toujours contente de leur donner les coordonnées de la prof, du prof. Donc, voilà, et ça, c'est quelque chose, ça peut être très différent d'un studio à l'autre. Et ça fait partie des choses qui sont très, très importantes à vérifier avant de collaborer avec un studio.
Super, merci pour ce... J'ai le chic hein, pour mettre le doigt sur... alors, une dernière chose, et là, je pense que tu seras d'accord avec moi pour les bonnes raisons d'enseigner en studio. Alors, surtout peut-être aussi quand on débute, je pense que ça permet de se trouver, de savoir justement et de définir un petit peu plus. Alors, ça passe aussi par le fait d'avoir une pratique personnelle régulière, mais voilà, le fait d'enseigner aussi en studio, c'est petit à petit trouver son style, trouver son public, entre guillemets, trouver ce qu'on aime, trouver son énergie, trouver sa voix, voilà. Oui. Je pense que tout ça, ça peut aider. Alors, bien évidemment, de la même manière en ligne ou autre, mais voilà, je pense que c'est un bon exercice pour faire ses premières armes, entre guillemets, aussi.
Clairement, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, hein, et c'est vraiment quelque chose qui est... J'insistais tout à l'heure sur le côté présentiel parce que vraiment, en fait, le fait d'être dans une énergie de groupe, de pouvoir tester des choses, de pouvoir évoluer aussi en fonction des formations qu'on a faites, en fonction de la réaction des élèves, Ça peut nous amener parfois à arrêter certaines choses, à en commencer d'autres. Et il y a vraiment cette communication constante, en fait, qu'on n'a pas en ligne et qui permet vraiment de garder contact avec ses élèves et de ne pas les voir comme une base de données et à vraiment avoir des personnes en face de nous qui nous aident à nous aussi évoluer, effectivement. Mmh.
Après, en ligne, on peut quand même avoir énormément de feedback de ses élèves. Hein. On peut organiser des Q&A à la fin des cours. On peut organiser, on peut discuter. Ça dépend en fait de la pratique online qu'on va choisir. Si on choisit de la VOD, où là, il peut y avoir moins d'interactivité, sauf peut-être dans un groupe communautaire qu'on choisit d'avoir à côté d'une plateforme, d'une chaîne en VOD. Mais sinon, si on choisit de donner, par exemple, des cours en live, souvent les profs laissent de l'espace quand même pour des échanges avant la pratique et du feedback après.
Ouais,
après,
bien sûr,
peut-être qu'on partage moins. Enfin, peut-être que voilà, en tant qu'élève, on prend notre cours et après, on se déconnecte. Il n'y a peut-être pas le même.
Je parlais plutôt de l'énergie des élèves et du côté non-verbal, en fait, qui est vraiment très, très présent dans une salle quand on est face à un groupe et qui peut être un peu plus pour avoir donné beaucoup de cours Zoom pendant les confinements. C'est vrai qu'on a moins, on ressent moins, en fait, le retour d'énergie de nos élèves.
C'est moins palpable.
Voilà, c'est moins palpable et c'est bien de pouvoir avoir, pas énormément, hein, mais déjà un ou deux cours dans la semaine où on peut être en contact avec ses élèves, en contact physique, c'est quand même un plus.
Alors, excellente transition justement. Si je veux avoir décroché ces fameux créneaux, ces fameux cours en studio, parce que c'est quand même quelque chose que j'entends aussi de la part de certains profs de yoga, ben, j'arrive pas à trouver des cours, à trouver des studios, à trouver des créneaux, etc. Alors, probablement que c'est parce qu'on s'y prend pas toujours comme il faut. Est-ce que déjà, il y aurait des erreurs à éviter, des choses à ne pas faire, des gros fails?
Il y en a, effectivement. Alors, bon, déjà, par rapport aux personnes qui ont du mal à trouver, c'est un discours que je peux entendre en campagne parce que il commence à y en avoir de plus en plus, mais il y a quand même peu de studios en campagne, donc c'est plus... la norme d'aller chercher soi-même une salle et de chercher sa base d'élèves. En ville, nous, on est sur Aix et Marseille, il y a quand même beaucoup de lieux qui regroupent des profs de yoga, plein de cours. Et c'est quand même assez accessible. Il y a des opportunités. Après, comment s'y prendre, c'est autre chose. Donc, dans les erreurs à éviter, je dirais la plus grosse erreur que j'ai vue en tant que gestionnaire de studio, c'est quelqu'un qui avait fait une toute petite formation en 30 heures et qui nous avait envoyé un mail pour nous expliquer que le yoga, c'était pas qu'une discipline sportive, c'était aussi une philosophie. Donc, oui, soit. quand tu postules dans une salle de sport, pourquoi pas envoyer un mail comme ça, en expliquant que le yoga, ce n'est pas seulement une discipline sportive, etc., que ça apporte quelque chose en plus. Bon, quand on s'adresse à un studio qui ne propose que du yoga et qu'il y a des profs qui ont été formés pour la plupart en 2 ans, 3 ans, 5 ans, qui n'ont jamais terminé de se former... Bon, ça l'a pas fait.
Là, ça paraît, ça tombe sous le sens en fait. Mais bon, c'est pas inutile de le préciser.
Voilà. Ensuite, la deuxième erreur qu'on voit absolument tout le temps, ce sont les personnes qui nous envoient un mail. Donc déjà, envoyer un mail, c'est pas la meilleure façon pour se faire connaître d'un studio. Et surtout, en fait, on reçoit un mail, nous on répond. Généralement en disant que on ne cherche pas forcément à ce moment-là, puisque c'est souvent le cas, ou c'est rarement le match de ce qu'on cherche au bon moment, c'est rarement arrivé. Et en fait, on n'en entend jamais plus parler. Mm. Et ça, c'est un peu comme dans tous les boulots, il faut simplement être sérieux et puis... Et puis, si tu as envoyé une candidature quelque part et que tu as eu un non, ça ne veut pas dire que c'est un non définitif. Ça ne veut pas dire que ce sera un non dans 6 mois. Donc, simplement, peut-être se rappeler au bon souvenir de la personne. Ça ne coûte pas grand-chose et ça prouve un peu qu'il y a un engagement. Parce qu'envoyer un mail, c'est facile. On ne sait pas combien il y en a qui ont été envoyés en même temps.
C'est ça. Et ça prouve qu'il y a un engagement et que ce n'est pas du publipostage. Ce n'est pas « je veux travailler dans n'importe quel studio, peu importe l'heure, l'endroit, les gens ». Enfin voilà, c'est « j'ai envie de donner un cours dans votre studio parce que c'est votre studio ».
Voilà.
Et j'ai l'objectif de travailler avec vous et que pour vos valeurs, pour vos élèves, l'emplacement, enfin tout, ça peut être plein de bonnes raisons, mais effectivement, comme nous, on n'aime pas être prospecté à froid sur d'autres sujets, sur Insta, sur LinkedIn, c'est se mettre aussi dans la posture. Et puis, oui, c'est une posture de je cherche un job, quoi. C'est pas une posture.
Voilà, exactement. Exactement.
C'est pas la bonne posture.
Et en fait, nous, quand on a développé un studio avec le cœur, on s'attend à ce qu'il y ait des personnes qui viennent aussi avec le cœur en disant oh là là, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe chez vous. J'ai envie vraiment de venir travailler ici parce que l'énergie du studio me plaît, parce que vous avez l'air sympa. C'est bête, mais en fait, c'est la base. On parle à des humains et voilà, des personnes qui ont mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour dans ce qu'ils ont fait et juste respecter ça et puis aller dans ce sens-là. Après, on a aussi des personnes qui ont fait les choses bien pour venir vers nous et qui ensuite, malheureusement, font des petites erreurs. De nous proposer de travailler sur un créneau qui est déjà pris. Donc on peut pas aller on peut pas aller beaucoup loin avec ça. Si le créneau est déjà pris, c'est qu'il y a un prof qui est déjà en train de donner toute son énergie sur ce créneau-là et qui l'a choisi pour une raison et que donc c'est pas prévu d'enlever ce prof-là pour pour qu'un nouveau vienne travailler sur ce créneau-là. Ensuite, nous, ce qu'on aime en fait, c'est des gens passionnés. On est passionnés. Et on s'attend à ce que les personnes qui viennent vers nous nous expliquent quel style de yoga ils enseignent, pourquoi, qu'est-ce qu'il a de particulier ce style de yoga, qu'est-ce que ça va apporter au studio. Et c'est déjà arrivé malheureusement aussi, quelqu'un nous envoie un mail en nous disant j'ai pas trop envie de travailler le soir, donc je serai disponible sur les créneaux du matin. Et puis mon tarif s'étend, il n'y a pas de. Enfin, la vibration, elle est pas assez haute pour nous là. Après, ok, sur quelqu'un avec qui il y a un super bon feeling et tout, qui ait des contraintes de temps, d'horaire, mais c'est tout à fait normal. Et si on veut vraiment recruter quelqu'un, on arrivera à se débrouiller pour lui trouver le bon créneau. Mais voilà, en fait, on va commencer à collaborer avec quelqu'un simplement parce qu'il est dispo sur le créneau qu'on aimerait bien remplir, quoi.
Mais c'est marrant, ça me rappelle à mes souvenirs un peu corporate. J'ai connu ça. Mais juste pour revenir effectivement sur se présenter avec pourquoi on a envie d'enseigner, ce qu'on va apporter au studio, aux élèves, ce qui fait finalement un petit peu ou ce qui pourrait faire notre petite différence ou ce que ça pourrait apporter. Le tout, ok, avec humilité, mais ça revient à ce que j'enseigne aussi en termes de positionnement, c'est-à-dire qui je suis, pourquoi je le fais, à qui je m'adresse, quels sont les bénéfices ou les bienfaits d'un cours, comment je vais pouvoir apporter quelque chose aussi peut-être de différent, quelle expérience je vais apporter. Pourquoi pas derrière, en plus on peut peut-être être connu déjà ou avoir une communauté ou quoi, ça peut peut-être aussi apporter des atouts supplémentaires. Mais pas que. Mais voilà, en tout cas, la valeur ajoutée de ce que je vais apporter, avoir un peu, apprendre à se présenter, quoi, en mettant en avant ses bénéfices, sa valeur ajoutée, peut-être quelques marqueurs de crédibilité s'il y en a. Ça paraît logique, mais ouais.
Et après, c'est marrant parce que moi aussi, en fait, ça me rappelle des souvenirs corporate parce que je n'ai pas toujours été que prof de yoga. Et c'est vrai que typiquement, la personne qui vient à toi en entretien et qui te demande est-ce qu'il y a une voiture de fonction, quels sont les horaires de travail.
Oui, c'est ça. Et, qui cherche ça démarre mal, quoi.
Sur le poste, bon. Voilà, enfin, intérêt limité, disons.
C'est ça. Je crois que ça nous rappelle les mêmes souvenirs.
Oui, pardon. Donc, après, on parlait des erreurs à éviter. J'ai quand même un dernier point. C'est rester conscient qu'en fait, ce qui intéresse les studios, c'est les cours réguliers. On a beaucoup envie quand on démarre de proposer des ateliers. Les ateliers, c'est vraiment génial. Les ateliers, c'est bien rémunérateur, ça peut attirer beaucoup de monde, on peut avoir une valeur ajoutée bien plus importante que sur un cours d'une heure. Mais en tout cas, chez nous, sur les ateliers, le studio ne prend pas un gros pourcentage. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on offre aux profs qui sont déjà là. Que nos élèves connaissent et c'est un peu comme un cadeau qu'on fait à nos profs. Donc en fait, aller démarcher un studio pour proposer des ateliers, c'est faisable, mais là pour le coup, il faut vraiment avoir une communauté, il faut vraiment prouver qu'on va apporter du monde et qu'on va avoir une valeur ajoutée très très importante. Donc j'ai envie de dire, un prof qui débute, qui propose des ateliers, nous, ça ne va pas nous intéresser. Voilà. Autant un prof qui débute, pourquoi pas sur un cours régulier, voir si ça fonctionne ou pas. Mais des ateliers, il faut attendre un peu que ça prenne ou faire venir des personnes avec une valeur ajoutée avérée et très importante.
Oui, ok. Et ben je pense qu'on a déjà là un petit listing d'erreurs à éviter. Et du coup, à l'inverse, comment me mettre en avant finalement quand je démarche un studio? Et puis je t'ai entendu dire plusieurs fois les mails. Donc voilà, plutôt se déplacer. Enfin, même si je pense avoir toutes les réponses, mais j'aimerais que ce soit toi qui me le dise. Qu'est-ce que je dois savoir peut-être avant, ensuite comment je m'y prends, sur quoi je dois être préparée entre guillemets, est-ce que tu peux nous dire comment se mettre en avant, comment mettre un maximum de chance de son côté?
Alors d'abord, tu as demandé qu'est-ce que je dois savoir avant, on va peut-être commencer par ça.
Ouais.
Parce que je vais peut-être vous décevoir, mais en fait, tous les studios ne sont pas comme le nôtre, super bienveillants, super agréables, un lieu de partage. Donc, d'abord, renseignez-vous. Renseigne-toi sur le studio. Est-ce que tu connais des profs qui sont passés par là, qui y sont? Est-ce qu'ils ou elles ont eu envie de rester? Déjà, ça donne une bonne idée de comment ça se passe. Est-ce que, en tant qu'élève, tu connais des personnes qui sont allées dans le studio? Comment ça s'est passé pour eux ou pour elles? Des questions toutes bêtes, hein, comme est-ce que c'est propre? Est-ce que c'est aéré? C'est tout bête, mais en fait, quand on va en studio, c'est peut-être pour trouver un lieu un peu différent d'une salle municipale. Donc, déjà, partir de là. Quel est le planning de ce studio? Si le lieu semble te convenir, quelles sont les personnes qui le gèrent? Est-ce que ce sont des profs ou est-ce que ce sont des personnes qui ont juste voulu créer un business parce que c'est la mode du yoga? Et ça, c'est vraiment une grosse, grosse différence. Parce que quand le studio est géré par un ou des profs comme nous, c'est que ces personnes ont vraiment mis toute leur énergie pour déjà donner leur propre cours dans un lieu qui va être agréable. Si c'est juste, entre guillemets, un business, là, on peut avoir des pratiques un peu moins sympas. Après, il peut aussi y avoir des profs qui ont créé ce lieu et qui ont envie de, quelque part, s'enrichir sur le dos des autres profs. Ça arrive aussi. Donc, renseignez-vous aussi sur les pratiques, notamment les prix qui sont pratiqués. Est-ce que ce sont les mêmes prix pour tout le monde? Est-ce que il y a des prix qui sont plus élevés pour les personnes qui ont plus d'élèves? Nous, justement, on n'a pas choisi cette option. C'est intéressant à savoir, mais nous, on a préféré justement se payer toutes pareilles. Et les mois où le studio rapporte un peu plus, on s'augmente toutes de 10 euros par cours. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait aussi preuve de la façon dont on gère notre studio. Ça veut dire qu'on ne se sent pas au-dessus des autres profs, que bah, si le studio fait un peu plus, tout le monde en profite. Donc, je sais qu'on n'est pas très nombreux à faire ce genre de système, mais j'en appelle aux autres gérants de studio. On peut très bien s'en sortir avec ce type de façon
de grille de rémunération. Ouais.
Exactement. Et donc, se renseigner sur le studio, ça va être la première chose. Après, bien évidemment, les plannings. Est-ce que c'est un studio qui propose beaucoup de vinyasa, par exemple, ou que du hatha dit traditionnel? Déjà, ça va aussi changer les choses. Après, ce n'est pas parce que le studio n'est pas estampillé avec le même style que vous qu'il ne faut pas y aller. Au contraire, peut-être que justement, vous aurez une valeur ajoutée beaucoup plus importante si, en tant que prof d'ashtanga, vous allez taper à la porte d'un studio de hatha traditionnel. Pourquoi pas?
Oui, mais l'avantage, c'est qu'en se renseignant sur ce que propose le studio, on y va armé dans le sens où, justement, à pouvoir arriver en disant, voilà, je sais ce que vous avez l'habitude de proposer, mais j'avais envie de venir éventuellement vous proposer une ouverture sur tel type voilà, de yoga ou tel, par exemple, l'ashtanga. Pourquoi, comment je pense que ça peut apporter,
exactement,
etc. Et après, le studio est libre voilà, d'accepter ou pas. Mais en tout cas, c'est intéressant de faire… Quoi qu'il en soit, ça sera un échange intéressant et riche et une ouverture. Voilà, donc je trouve qu'il y a deux volets intéressants dans le fait de se renseigner avant de démarcher. Et déjà, est-ce que c'est aligné avec ce que j'ai envie, ce que je veux, etc. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques qui font que je ne me mets pas dans un piège, quoi, ou dans quelque chose qui va me faire dire après que ben voilà, on est mal payé, on est mal traité, on est mal ceci, on est mal cela, mais peut-être que c'est écrit en gros sur la porte, entre guillemets.
Exactement.
Et de trois, ça va aussi me permettre justement de personnaliser et d'adapter la façon dont je vais démarcher le studio et ce que je vais, comment je vais pouvoir, entre guillemets, me mettre en avant, en valeur, quoi.
Ouais, tout à fait, exactement. Et puis, une fois que j'ai vérifié et que je pense que c'est un bon match, ou en tout cas que j'ai quelque chose à apporter et que le studio a quelque chose à m'apporter aussi, comment s'y prendre? Eh bien, on en a un peu parlé hein, auparavant, j'ai beaucoup parlé de mail, donc tu te doutes ce que je vais te dire. Mais viens nous voir, viens faire un cours d'essai, viens faire un atelier avec... Une des personnes qui gère le studio, présente-toi. On n'est pas obligé directement de demander est-ce que vous recherchez quelqu'un, mais déjà faire ce premier pas de se déplacer plutôt que d'envoyer un mail, mais c'est génial.
Mais oui.
Nous, ça nous est arrivé d'avoir des profs qui venaient faire un atelier au studio, et puis 6 mois après, on a eu besoin de quelqu'un. Et en fait, avec mon associé, on n'a même pas eu besoin d'en parler. Je lui ai dit, écoute, moi, j'ai une personne à laquelle je pense. Et elle m'a dit moi aussi. Et en fait, c'était la même. C'était une prof qui était venue pratiquer pendant un atelier. Et en fait, ce qu'on avait adoré, c'est qu'elle avait été hyper humble, mais hyper gentille en même temps, qu'on avait beaucoup parlé de notre vie de prof. Et qu'elle n'avait pas mis en avant le fait qu'elle cherchait, qu'elle se lançait, etc. Mais plus, en fait, on avait parlé de yoga et ça avait énormément matché. Et voilà, quand les rencontres se font comme ça, il n'y a rien à dire, c'est fabuleux.
Oui, mais c'est vrai que c'est important de le dire parce que on peut aussi faire le parallèle en ligne. Moi, je vois souvent des personnes aussi qui veulent... voilà, soit pour des interviews, soit, enfin, bref, ça peut être même moi, hein, dans mon sens, pour des démarches. Et puis, en fait, on débarque du jour au lendemain. Salut, j'aimerais bien, voilà. Bah non, il faut suivre la personne, il faut voilà montrer de l'intérêt, il faut, et puis à un moment donné, on se dit bah ok, maintenant c'est le bon moment pour, enfin soit c'est les personnes qui nous démarchent, soit effectivement c'est le bon moment pour bah aller demander ou aller voilà aller un petit peu plus loin sur une collaboration professionnelle ou autre. Mais c'est vrai que voilà, c'est bien de pas débarquer à froid et plutôt de se connaître par la manière douce et voilà, souvent on dit ouais, moi je veux faire du yoga mais je veux rester authentique, je veux être fidèle. Bah voilà, ça c'est quelque chose qui se fait de manière naturelle et authentique aussi quoi. Et puis c'est quand même bien aussi, je pense, de prendre des cours dans le studio dans lequel on veut enseigner. Enfin, je pense qu'il y a rien de tel que de voilà justement de savoir si ça nous plaît, de sentir l'énergie, de
exactement, pour prendre la température de comment ça se passe, qui sont les élèves, comment on peut se positionner et tout. C'est vraiment, c'est la base et c'est génial quand ça peut se passer comme ça. Donc, une fois qu'on a trouvé le bon match et qu'on s'est déplacé, et ben comme on le disait tout à l'heure, en fait, il faut un peu, c'est là qu'il faut un peu savoir se vendre. Savoir se vendre, ça ne veut pas forcément dire jouer les commerciales à tout prix. Hein. Savoir se vendre, c'est simplement se dire bon, ben voilà, je suis prof de vinyasa. Dans ce studio, il y a déjà 3 profs de vinyasa. Et là, pour le coup, dans mon studio, c'est un peu ça. On est très vinyasa et très yin. Donc malheureusement, même quand on a des super profs de vinyasa et de yin qui nous contactent, c'est compliqué de leur faire une place. Comment s'y prendre? Eh ben, je ne sais pas, peut-être tu as fait une post-formation en power yoga et tu peux dire ben voilà, moi j'ai cette petite compétence différente, est-ce que ça ne pourrait pas s'intégrer? Franchement, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Il y a certaines disciplines pour lesquelles il y a beaucoup de profs qui sont formés, d'autres un peu moins. Et en général, après une formation généraliste, moi, je conseille toujours de toute façon aux profs de faire des post-formations tous les ans. Donc, piocher, si vous avez fait une post-formation en Jivamukti, eh ben, c'est intéresser les studios.
Ouais.
Tout ce qui est nouveau, tout ce qui est un peu différent, qui peut attirer des personnes différentes, ça va intéresser le studio. Il faut se dire que le studio, en fait, il va vous recruter, mais c'est pas que pour ses élèves existants. Parce que ces élèves existants, ils ont déjà des abonnements, ils ont
déjà des
cartes de cours.
Ça va être donc, pour amener des nouveaux clients, idéalement.
Voilà. On aimerait bien avoir quelques nouveaux, si possible aussi, avec un nouveau cours. Ce n'est pas pour que les autres cours soient désertés,
mais
dans le tien. Donc, voilà, l'idée, c'est d'avoir quelqu'un qui a déjà une petite présence en ligne. Là, je vais t'intéresser, je pense. Hein, parce que, alors, on n'a vraiment pas besoin d'avoir des profs qui ont 5000 abonnés ou plus. C'est vraiment pas forcément ça qu'on recherche. Mais quelqu'un déjà qui a un compte Instagram. Alors, je dis ça parce que oui, ça existe. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de compte Instagram. Et nous, ben, on fait quand même pas mal de com via ce réseau-là. Donc, si on peut même pas citer le prof pour dire qu'il arrive et que du coup, il y a une communauté de zéro, ça va être quand même compliqué. Parce qu'en fait, j'ai dit en début d'interview que c'est vrai que c'est un domaine, le travail en studio, qui demande moins de travail marketing. Mais ça ne veut pas dire zéro non plus.
Ouais.
Ça veut dire qu'il faut quand même un minimum dire, pas forcément au monde entier, mais à une petite communauté, tiens, ben, je vais commencer à travailler à tel endroit. Et nous, en tant que gérante de studio, on sait que si le prof ne fait pas ça, c'est nous qui allons devoir gérer la totalité, en fait, du marketing, de la pub, même du coaching du prof, parce que bah, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas suffisamment à l'aise pour mettre en avant sa pratique, pour avoir une vitrine sur les réseaux. Donc, tout ça, c'est des choses, oui, c'est quand même important d'avoir une présence en ligne pour postuler dans un studio aujourd'hui. Ça fait partie des indispensables, je dirais. Clairement. Bah,
je dirais presque que c'est un petit peu comme un CV, entre guillemets, mais sans faire complètement le parallèle, mais voilà, c'est un petit peu une manière et comme tu l'as très justement dit, pas besoin d'avoir des millions de followers, pas besoin de s'exposer à outrance si on le souhaite pas, mais c'est vrai que c'est un peu un gage, voilà, de visibilité, de quelqu'un qui est bien prof de yoga et qui l'assume, entre guillemets, et qui partage sur sa passion. Donc ça permet aussi au studio d'être un petit peu en contact avec la personnalité de cette personne, avec son univers, avec de voir aussi un petit peu son sérieux, tout ça. Donc oui, je pense que c'est important. Et alors, évidemment, tu prêches pour ma paroisse, mais même en dehors de ça, enfin voilà, aujourd'hui, ça fait partie de nos vies, quoi. Et ouais, ça doit être, c'est important de le dire de toute façon, que voilà, c'est sûr que ça sera un plus pour trouver un job en studio, effectivement.
Et en revanche, tu mentionnais le CV. Le CV, honnêtement,
ouais, ça sert à... ouais.
Pas la peine. Franchement, je préfère quelqu'un qui vient discuter avec moi, qui m'explique ce que c'est pour lui ou pour elle le yoga, qu'est-ce que ça a représenté, qu'est-ce que ça a changé dans sa vie, à la fois l'apprentissage, à la fois l'enseignement, que quelqu'un qui me dit « j'ai travaillé de telle date, à tel endroit ». Ça, c'est voilà, je pense que c'est un peu old school en fait.
Ouais, moi aussi, je trouve. Et est-ce que vous, enfin, j'interromps dans les bonnes pratiques pour pour postuler. Comme ça, je laisse encore un peu de teasing, de suspense. Mais est-ce que vous, par exemple, vous demandez à un prof que vous allez embaucher ou que vous avez envie, avec lequel vous avez envie de travailler, de vous faire un cours à vous en tant que gérante de votre studio? Est-ce que vous dites, tiens, on va faire un cours d'essai, enfin, fais-nous un cours pour voir justement comment il enseigne, etc. Est-ce que c'est des choses, des pratiques?
Alors, c'est arrivé, mais en fait, aujourd'hui, on préfère faire des tests sur nos élèves directement.
D'accord.
En fait, on a chacune nos styles de prédilection. Et du coup, c'est pas forcément, ça correspond pas forcément au fait que le prof est bon ou pas. C'est juste que des fois, quand on aime un style, on va avoir adoré le cours, alors que les élèves vont pas forcément s'y retrouver. Ça nous est arrivé récemment avec le studio qu'on a ouvert en dernier, où on avait beaucoup de débutants. On a voulu lancer l'Ashtanga, un cours qui est vraiment de très haut niveau qu'on adore. Et c'était trop tôt. Donc on a dû attendre un petit peu, le relancer plus tard. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est des tests grandeur nature, c'est-à-dire on démarre au studio et puis on voit, on attend un mois ou deux, voir si on arrive à atteindre la base. Pour nous, c'est 4-5 élèves par cours minimum. Mmh. Et puis si on arrive à les atteindre, on continue ensemble et puis on augmente, bien sûr, parce que c'est juste quand même 4-5 élèves par cours. Et malheureusement, si ça n'a pas fonctionné, ce n'est pas forcément la faute du prof. Hein. Ça peut être le créneau qu'il faut modifier, ça peut être plein de choses. Mais voilà, on préfère faire au fil de l'eau maintenant plutôt que de faire ces genres d'entretiens qui sont assez stressants pour tout le monde et qui finalement ne reflètent pas forcément les besoins des élèves.
D'accord, ok. Ouais, non, mais c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on doit savoir d'autre pour se mettre en valeur? Alors, quand on postule?
Je pense, par rapport à ce qu'on disait sur le fait de tester les profs et tout, c'est qu'on peut avoir des profs qui sont plutôt débutants dans l'enseignement, qui viennent postuler sur des studios, parce que, comme tu disais, ça peut être une bonne porte d'entrée. C'est hyper important, de toute façon, de commencer à donner des cours réguliers quand on débute. Donc, à savoir que vous pouvez y aller, faites-vous confiance, on ne va pas vous… c'est déjà arrivé, moi, hein, quand j'étais débutante, qu'on me dise non parce que j'étais débutante.
Oui.
Mais osez parce qu'on peut très bien faire confiance à quelqu'un de débutant, si son cours fonctionne bien, si vraiment il est passionné, que c'est quelqu'un qui a envie et qui donne des cours de qualité, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Et surtout que débutant en tant que prof ne veut pas forcément dire, même si ça sera peut-être de plus en plus le cas, mais débutant dans sa pratique. Donc, on peut pas être un pratiquant depuis très longtemps et par contre, commencer à enseigner. Alors, effectivement, il y a peut-être encore des réflexes qu'on n'a pas ou une certaine fluidité ou un style, mais au demeurant, on connaît la pratique et donc, on peut être très à l'aise quand même. Dans en tout cas les asanas, la pratique du yoga, etc. Même si ça n'empêche pas qu'il faut aussi avoir la pédagogie, savoir enseigner, que c'est un autre volet. Mais comme quoi, on peut quand même malgré tout avoir confiance en nous sur cet aspect-là.
Exactement. Et en fait, on voit vraiment les deux cas de figure en ce moment. Donc, on voit des personnes qui sont bien formées, qui sont des super profs et qui ont ce fameux syndrome de l'imposteur, qui n'osent pas se lancer, qui n'osent pas contacter des studios, qui n'osent pas se mettre en avant. Et malheureusement, des personnes qui leur passent devant, qui ont beaucoup moins d'expérience, qui sont super sûres d'elles, alors que, elles ne se sont pas formées en yin et elles veulent être profs de yin tout de suite. Donc, il y a les deux. Il y a, pour une certaine partie des personnes, ça va être, je vais leur donner le conseil, fais-toi confiance. Et pour d'autres, un peu d'humilité. Et essayer déjà de commencer, de trouver une routine. Et puis, si tu as des bons retours, pourquoi pas nous contacter. Voilà. Donc, il y a vraiment les deux en ce moment parce qu'il y a beaucoup de formations courtes aussi qui existent. Beaucoup de nouveaux pratiquants qui découvrent le yoga, qui adorent et qui veulent se former tout de suite. Il y a énormément de formations. Donc, c'est quelque chose qui peut varier d'une personne à une autre. Et nous, dans notre formation, parce qu'on est aussi formatrice, on a justement fait exprès de proposer une formation de 300 heures qui dure sur une année pour permettre justement aux profs de prendre conscience et de vraiment prendre en main leur carrière parce que, mine de rien, ça ne vient pas facilement pour tout le monde et c'est quelque chose, surtout chez les femmes, qui peut être vraiment un frein dans tous les métiers, ce fameux syndrome de l'imposteur. On n'en est pas débarrassé, même quand on devient indépendante. Et d'autant plus, quand on est prof de yoga indépendante, on a besoin de se mettre en avant, on a besoin d'avoir confiance en nous. Donc, c'est vraiment quelque chose pour lequel il ne faut pas hésiter à noter sur un papier quelles sont vos qualités. Je suis sûre que tu le proposes dans ton accompagnement aussi. Qu'est-ce que je peux apporter comme valeur ajoutée
Oui, je peux même rebondir sur... J'en ai justement parlé dans les masterclass cet été qui avaient pour but de se faire connaître et d'attirer des clients en continu, donc en fait de travailler sur sa visibilité. Et donc, entre autres, il y a le fait effectivement de connaître sa valeur, de travailler justement sur comment se présenter sur ses marqueurs de crédibilité. Et finalement, c'était une série de masterclass que j'ai donné cet été que j'appelle maintenant une mini formation et je l'ai remis en disponibilité sur mon site internet puisque je viens de lancer mon site. Donc j'en profite pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Si vous avez besoin justement de travailler sur comment me présenter, comment parler de moi, comment mettre en avant ce que je peux apporter, eh ben il y a cette mini formation visibilité qui s'appelle Masterclass d'ailleurs sur mon site, donc www.yogibiscoaching.com, qui est disponible en téléchargement gratuit. C'est 3 mini cours d'une heure avec des supports. Et je pense que ça peut aider justement à prendre confiance pour savoir comment faire le point sur ses compétences, sur ce qu'on a appris, sur ce qu'on est capable de faire, sur ce qu'on peut apporter, etc. Et c'est super important pour prendre confiance en soi, pour oser et donc pour démarcher mieux les studios, par exemple.
C'est vraiment super parce que je trouve que il y a vraiment un engouement en ce moment pour ce genre de choses et je suis trop contente que ça commence à naître, ce genre de formation, Parce que ben, on a beaucoup de personnes qui sont bien formées, qui sont là, et en fait, on ne les voit pas. Ouais. Et c'est tellement dommage parce que y a des personnes, c'est vraiment des pépites, des profs qui s'ignorent. Donc voilà, et ayez confiance. Et si vous n'avez pas confiance en vous, franchement, c'est le genre de choses qui est vraiment super intéressante à faire, ce genre de formation, de masterclass, parce que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui aux profs de yoga et c'est chouette que ça commence à se développer. Donc, on parle des profs débutants. Donc, on va continuer sur les profs débutants. J'ai un conseil à vous donner que j'ai moi-même pas du tout suivi et qui m'a énormément porté préjudice. N'acceptez pas de vous faire payer moins parce que vous débutez. Je suis sûre que Cécile, tu l'as déjà dit. Je suis sûre que j'ai déjà entendu ça. Mais honnêtement, quand je suis arrivée dans un des studios où je travaillais au bout de 2 ans en disant « Bon, ben voilà, maintenant je ne suis plus débutante, j'ai 15-20 élèves dans mes cours, ben, je vais augmenter mes tarifs. » Parce que n'oubliez pas que ce sont vos tarifs, même s'il y a un accord. J'ai eu un non catégorique. Et en fait, malheureusement, la collaboration elle ne peut plus continuer de la même façon. Donc, si à la base, le tarif qu'on vous propose ou le tarif qui est négocié ne vous convient pas, parfois, il vaut mieux ne pas commencer la collab que d'espérer que ça va changer. Ou il vaut mieux rediscuter, renégocier, voir ce qu'on peut faire pour que tout le monde soit content à long terme, en fait.
Ouais.
N'oubliez pas que la prestation que vous donnez, c'est quand même, il y a un déplacement, il y a un cours qui est donné à de nombreuses personnes qui paient en général assez cher pour le cours. Donc, voilà, si le tarif ne résonne pas pour vous comme étant quelque chose de suffisant, peut-être que si la négociation n'est pas possible, ça ne vaut pas la peine d'aller plus loin avec ce tuyau-là. Et j'en profite aussi pour dire qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités quand on est en ville. Si on accepte quelque chose qui nous convient à moitié, ça va peut-être barrer la route pour une opportunité qui sera meilleure à l'avenir. Il ne faut pas hésiter à refuser ou à arrêter une collaboration si on sent qu'on n'est plus aligné. On est partenaire, mais voilà, c'est quelque chose qui vaut mieux réfléchir en amont plutôt que d'avoir à arrêter en cours de route, c'est clair. Donc, s'il y a quelque chose qui ne vibre pas juste pour vous, c'est sûrement que ce n'est pas juste en fait.
Oui, je suis hyper d'accord avec ça, c'est-à-dire à quel moment je sens qu'il ne faut pas aller dans la collaboration, qu'il ne faut pas accepter la collaboration. Et effectivement, je pense que le risque, quand on se brade ou qu'on accepte un prix qui est en dessous de celui auquel peut-être on avait pensé décrocher le contrat ou autre, c'est qu'on va ressasser ça, en fait. Donc, de toute façon, on ne donnera pas le meilleur de nous-mêmes, on ira à reculons. Il n'y aura pas les bonnes énergies, les bonnes vibes. On va dire, ouais, mais je donne ce cours, mais je ne suis pas payée à la hauteur de ce que… Enfin, voilà. Bref. Donc, in fine, c'est rendre service à personne. Ça se finira forcément pas bien. Et en plus, effectivement, on va peut-être créer un turnover finalement dans le studio plutôt que de pas commencer et puis de rester soi-même avec sa ligne de conduite, ses objectifs, le prix auquel on veut enseigner. Et ça, c'est gage aussi de bien-être dans son job. Je reste convaincue là-dessus. Est-ce que il y a, je sais pas si on peut en parler. Est-ce qu'il y a un plancher, est-ce qu'il y a une idée, une fourchette, je démarre dans le yoga, je demande autour de moi, j'ai 56 000 prix différents. Est-ce qu'il y a un plancher en dessous duquel, en tout cas, c'est légitime de pas aller, entre guillemets. Même si c'est différent en fonction des villes, en fonction des modes de rémunération des studios. Mais justement, comment je fais, moi, si je démarre, pour savoir quel est le juste tarif pour moi, entre guillemets, à accepter ou pas ?
Alors, c'est vrai que c'est très différent en fonction des villes, en fonction des studios. Est-ce que c'est une association ? Est-ce que c'est une entreprise ? Donc, déjà là, on a des différences qui sont fondamentales. Bon, on va parler pour les micro-entrepreneurs parce qu'il y a aussi la possibilité de se faire embaucher par le studio. Là, de toute façon, toute notre conversation est plutôt autour de l'auto-entrepreneuriat.
Oui, du freelance. Donc,
voilà. Moi, ce que je dirais, c'est que ce qu'on m'a souvent dit dans les lieux où je travaillais, où on me proposait un tarif bas, c'est-à-dire en dessous de 40 euros, c'était que les profs de fitness, en fait, étaient payés une trentaine d'euros à la séance. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Un club de fitness et un studio de yoga. Un studio de yoga, 40 euros, c'est vraiment le grand minimum de l'heure. Nous, on pratique plus que ça. Voilà. Moi, c'était, pour te donner un exemple, ouais. C'était le tarif qui m'avait été proposé et que j'ai voulu renégocier après, ouais. Après un certain temps.
En base d'un cours de fitness, quoi.
Voilà.
Ouais.
Donc, non... je sais que c'est pratiqué, c'est beaucoup, beaucoup pratiqué, les tarifs à 40 euros. Chez nous, on est sur une base de 50 minimum et plus, comme je te disais tout à l'heure, si le studio a pu, et franchement, avec des loyers élevés, on s'en sort bien. Donc, à savoir que s'il y a beaucoup d'élèves en cours et qu'on vous propose 30 ou 40 euros, où va cet argent ? Voilà, c'est un peu ça l'idée. Voilà, à voir aussi en fonction des besoins. Hein, mais voilà, c'est toujours une discussion un peu compliquée parce que, par exemple, j'ai aucune idée à Paris. Peut-être que c'est beaucoup plus élevé les tarifs parce que vu le coût de la vie, le coût... des loyers à Paris, peut-être qu'effectivement, déjà, les cours de yoga sont plus chers. Nous, on est à 15 euros la séance en moyenne. Voilà, c'est aussi en fonction des dépenses de l'entreprise, de l'association, de ce que l'entreprise a choisi de dépenser. Nous, ce qu'on veut surtout, en fait, c'est pas forcément faire de croissance, faire de profit, ça ne nous parle pas du tout en fait. Nous, on veut juste que tout le monde soit payé en tant que micro-entrepreneur, que le loyer, l'électricité soient payés. Et en fait, on est super contente. Mais tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Donc, voilà.
Non, mais après, au-delà, je pense, des aspirations de certains studios, ou même, j'allais dire, de ses coûts, parce que c'est pas quelque part la responsabilité, entre guillemets, du prof qui vient enseigner. Et voilà, c'était juste d'avoir une idée de ce qui devrait peut-être pas ou moins être accepté, sous prétexte que, j'ai la chance qu'on m'embauche. En plus, je débute, alors j'ai pas le droit. Voilà, c'est vraiment ce que tu as dit, de pas non plus se brader. Et encore une fois, moi, j'insiste pour le coup sur le côté, de toute façon, à un moment donné, vous n'aurez pas envie d'y aller, vous n'aurez pas la bonne énergie, ça va...
Exactement. Voilà,
là, risque de burn-out, de blessures, de remise en question, etc. Donc voilà.
Ça, en fait, c'est une balance. C'est rester consciente d'un côté qu'il y a quelqu'un qui paie le loyer, il y a quelqu'un qui fait le ménage, qui répond au téléphone, qui gère les demandes des élèves qui sont très, très fréquentes et pas forcément super pertinentes toujours. Et que tu t'occupes de rien de tout ça, sauf de les accueillir, de faire ton cours et de repartir. Mais en même temps, d'être conscient que venir, faire ton cours et repartir, ça a une certaine valeur.
Oui, que ça a une certaine valeur. Qu'en tant que micro-entrepreneur, tu as aussi toi tes taxes, tes charges.
Voilà.
Donc voilà, c'est ça. Et puis, et au-delà de ça, effectivement, c'est aussi, c'est un peu pour ça que je disais, si on choisit aussi un lieu dans lequel on a envie d'enseigner, si on a quelque chose à apporter, si voilà, enfin, tout ça, c'est un, une succession de facteurs qui font que normalement, voilà, on doit se retrouver au bon endroit avec l'envie d'enseigner.
Exactement.
Ou aussi le fait de ne pas sauter sur toutes les opportunités, de ne pas se disperser, même si à court terme, on pense que ça va être ce qui va nous permettre de gagner de l'argent. In fine, en fait, bah non, parce que voilà, peut-être que enseigner ailleurs, comme tu disais, où il y aura peut-être une meilleure opportunité, peut-être que finalement, c'est mieux de développer soi-même quelque chose. Donc, il faut vraiment, je pense, quand on veut enseigner en studio, que ça soit un choix du cœur sur
exactement
à quel prix on enseigne, quel style on enseigne, à quel type d'élève ou d'univers de studio on enseigne, etc. Je pense que ça, c'est vraiment…
C'est exactement ça. Et puis, il ne faut pas non plus s'épuiser à courir de studio en studio. C'est pas. Alors oui, ça va être un revenu qui va être régulier et c'est sécurisant. Mais contrairement à ce qu'on peut croire en tant que gérante de studio, moi j'adore quand les profs ont une autre activité en fait, parce que avoir un revenu qui vient uniquement de cours en studio, ça veut dire qu'on s'épuise, qu'on donne plus de 15 cours par semaine, enfin, dépendant des besoins qu'on a. Mais si on est en ville, ça revient à peu près à ça. Et honnêtement, pour l'avoir fait, déjà donner 8-10 cours, c'est épuisant. Donc voilà, il faut aussi garder son énergie pour donner des cours de qualité déjà.
Ouais, c'est
et puis,
ça.
Ce serait dommage de faire un burn-out en étant prof de yoga quand même.
De se blesser ou même de se blesser et de ne plus pouvoir justement enseigner pour le coup.
Exactement. Donc tout ça, c'est des choses aussi qui peuvent être définies quand on collabore, nous, avec des auto-entrepreneurs. On fait souvent un contrat de collaboration où on essaie de définir des règles. Donc, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais ça donne déjà une structure, un cadre. Ça permet de savoir où on va, comment on y va, quelles sont les conditions de la collab. Par exemple, nous, nos profs ont un accès au studio, un accès illimité. C'est peut-être tout bête, mais en fait, ça permet aussi d'améliorer la cohésion de nos profs et aussi ce système de pas payer plus la prof qui a 20 élèves que la prof qui a 4 élèves parce que peut-être elle a un créneau du matin
oui.
moins parce que c'est le matin. Du coup, ça, tout ça participe au fait d'avoir vraiment de se sentir faire partie d'une équipe et d'avoir ce côté un peu plus soudé et collaboratif en fait. C'est ça qui est intéressant dans le travail en studio.
Alors, je ne sais pas si je vais réussir à résumer tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il faut mettre en place. Je compte sur les auditeurs et les auditrices pour avoir pris des notes. Mais en tout cas, ce que je retiens quand même, déjà, c'est l'idée, c'est pas, entre guillemets, d'aller enseigner pour un studio, mais c'est de collaborer finalement avec les studios. Donc, à partir du moment où j'ai à l'idée et à l'esprit cette démarche de collaboration, ça veut dire qu'on est sur du, entre guillemets, du gagnant-gagnant, qu'on s'apporte, qu'on se nourrit en tant que gestionnaire de studio et en tant que prof pour le studio. Et donc, à partir de là, ça veut dire qu'effectivement, on doit un petit peu… on doit apporter de la valeur ajoutée au studio, on doit donc se préparer un petit peu et savoir se vendre entre guillemets, donc en tout cas connaître sa valeur et puis préparer un petit peu son pitch pour savoir ce qu'on va pouvoir apporter. On doit éviter les pièges ou les contourner en tout cas en se renseignant bien en amont sur le studio, sur s'il y a déjà des profs qui ont enseigné, comment ça s'est passé, etc. Tout ça, c'est super important aussi. Et évidemment, avoir aussi confiance en soi, d'où l'importance de travailler aussi un petit peu sa présentation. C'est pas parce qu'on est débutant qu'on n'a pas notre place en studio, bien au contraire. Et puis moi, je rajouterais effectivement ne pas vouloir saisir toutes les opportunités à tout prix ou à n'importe quel prix, justement pour éviter de se disperser et finalement de faire des choses au final qui ne seront pas alignés avec nous et qui vont nous éloigner de notre mission et de notre passion de l'enseignement. Et il y a d'autres moyens aujourd'hui pour gagner sa vie en enseignant le yoga et pour se diversifier que de vouloir courir les quatre coins de la ville. Donc voilà, plein de belles choses à réécouter, en tout cas, si demain on veut aller se présenter et donner des cours en studio. Et alors, j'ai une dernière petite question, parce qu'on a parlé justement là des personnes voilà, qui souhaitent avoir une démarche pour aller enseigner en studio, pour devenir donc prof de yoga en studio. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous, en tant que studio, parfois, vous allez démarcher des profs. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des profs que vous aussi, vous avez envie d'avoir chez vous? Et dans ce cas-là, comment vous les repérez? Comment vous les choisissez? Comment vous les contactez?
Alors, on a un petit exemple récent pour notre studio d'Aix. En fait, on cherchait une prof de Kundalini Yoga. Donc moi j'adore cette pratique et c'est vrai que il y a plusieurs aspects dans cette pratique dépendant complètement des profs et en fait on n'avait pas envie de quelque chose de trop qui fasse peur à nos élèves avec trop de turban blanc, trop de mantras chantés et donc on voulait quelque chose de très doux et quelque chose qui passe auprès de nos élèves qui ne connaissent pas cette discipline, voilà. Et en fait, on a cherché tout simplement sur Instagram. On a cherché, bon, on a fait une recherche Google, bien évidemment, hein, mais en fait, notre petite perle, on l'a trouvée sur Instagram. Et à noter que c'est quelqu'un, Mathilda, si tu nous entends.
Ah bah oui, parce que j'allais lui faire un petit coup.
Donc, son Insta, c'est Relax Mama Singh Kundalini. Et en fait, elle a pas une énorme communauté, mais j'ai trouvé dans ses vidéos quelque chose qui vibrait avec l'énergie de l'équipe qui allait bien s'intégrer. Et d'ailleurs, c'est super bien intégré. En fait, ne pas oublier que tout simplement, c'est aussi ça qu'on cherche, hein, quelqu'un qui va bien s'intégrer avec les autres membres de l'équipe. Et du coup, on l'a contacté sur Insta, on s'est rencontrés, et puis ça a été un super coup de foudre. On n'était pas sûr, en fait, hein, de la façon dont elle allait mener la séance. Et puis, voilà, ça a été vraiment à la hauteur de nos espérances. Et du coup, je ne peux qu'encourager les personnes qui nous écoutent à vraiment optimiser leur Insta. Je suis sûre que tu as plein de conseils.
Quelle merveilleuse conclusion! J'aurais pas fait mieux.
Voilà.
Ah bah c'est un super exemple et comme quoi donc effectivement moi je retiens donc deux choses. Si vous allez quand vous démarchez, en tout cas c'est une présence en ligne, parce que forcément aujourd'hui c'est là où on va chercher, et donc particulièrement Google et Instagram, les deux. Et deuxième chose, tu nous as dit, on a vu sa manière d'enseigner, etc. Donc, peut-être le pouvoir de la vidéo ou en tout cas de ça.
Oui, tout à fait. Elle avait posté des petites vidéos de Sadhana. Donc, j'avais vu le style de Kundalini qu'on recherchait, en tous les cas, la douceur. Donc, tout ça a été effectivement présent dans ses vidéos. Donc, on n'a pas été non plus surprise.
C'est vrai que c'est un point important, parce que je dis souvent, il faut montrer comment vous enseignez. C'est pas qu'il y a une bonne façon ou une mauvaise façon, c'est qu'il y a juste une façon effectivement qui peut résonner aussi bien avec les élèves qu'avec effectivement des gérants de studio ou des personnes qui voudraient vous contacter pour un événement ou autre. J'ai eu le cas aussi il n'y a pas longtemps pour une retraite où on est venu vers moi en me demandant, est-ce que tu as des profs de yoga à me conseiller, etc. Et forcément, moi, j'ai donné des noms, mais la première chose que ces personnes vont faire, c'est d'aller voir le compte Instagram. Donc là, on a besoin de trouver l'univers de la personne, qui elle est, sa personnalité, voir son enseignement. Donc, il y a quand même deux, trois fondamentaux qu'on doit avoir sur notre vitrine Instagram. Il n'y a rien à faire. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui.
Exactement. Et même nos profs qui n'étaient... Parce qu'on a quand même quelques profs qui n'étaient pas présentes quand on a démarré. Et on les a accompagnés pour... pour les aider à prendre confiance et à créer leur présence en ligne aussi, parce que c'est aussi important pour nous que nos profs soient présents.
Ouais, et ben merci de le faire, ça contribue à faire rayonner la présence des profs de yoga en ligne et surtout à faire rayonner le yoga d'une manière générale. En tout cas, écoute, un grand merci à Anne-Lise pour vraiment tous ces conseils. Est-ce que vous recrutez du coup en ce moment? Si on peut parler un petit peu de votre actualité.
Écoute, on vient de recruter justement pas mal de monde. On a recruté Mathilda pour le Kundalini AF. On a aussi Elodie qui va nous rejoindre pour le yoga aérien, grande nouveauté. Sur plan de CUC, même chose en fait, on va démarrer un cours de Bharater et un cours de Hatha Yoga. En revanche, si il y a des super profs de Kundalini aussi qui sont dans la douceur sur Marseille, ça peut nous intéresser.
Voilà. Alors, en tout cas, je mettrai tous les liens pour vous retrouver, pour vous contacter dans les notes de l'épisode. Super. Et puis, écoute, encore une fois, un grand merci à toi déjà pour cette conversation. J'y ai pris beaucoup de plaisir, moi aussi. Et puis, pour tous les bons conseils que tu as apportés aux profs de yoga qui nous écoutent. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à toi et à bientôt.
Bye bye Anne-Lise, ciao.
J'espère que cette discussion t'a plu et t'a donné les clés pour enseigner en studio. Si c'est le cas, surtout partage cet épisode en story en nous taguant @yogibiscoaching et @blissyogahome pour nous le faire savoir. Et si tu gères toi aussi un studio, n'hésite pas à venir nous partager ton expérience de la même façon en partageant l'épisode en story. Tu peux aussi me laisser une note 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Il te suffit pour ça de t'abonner et de scroller jusqu'en bas, de toucher les étoiles pour noter, puis encore un tout petit peu plus bas, de cliquer sur rédiger un avis. C'est quelques minutes seulement pour m'aider à faire connaître le podcast et à pouvoir te proposer encore plus d'interviews de qualité. Et aussi, le seul moyen pour moi de savoir ce que le podcast ou l'épisode t'a apporté. YogiBiz Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement en direct de Bali avec Marine Chapon. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.